Les enfants de Chronos. Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Aujourd'hui, une petite notice sur le château de Pierrefonds. Le site du château de Pierrefonds bénéficie évidemment de l'aura de son restaurateur principal, Eugène Viollet-le-Duc, qui au milieu du XIXe siècle a œuvré pour répondre à la commande de l'empereur Napoléon III, tout en faisant du lieu le manifeste dans la pierre d'une certaine vision de l'architecture gothique. Pourtant, le château est encore l'objet de recherches ponctuelles, de débats entre spécialistes et de légendes à son propos. Non, il n'y a pas de souterrain. Non, il n'a pas été déplacé. Non, il n'est pas une création ex nihilo de l'architecte génial. Au contraire même, il y a bien, sous l'œuvre de l'architecte, un château médiéval atypique. Perché donc en haut d'une colline dominant le Rue de Berne, en lisière orientale de la forêt de Cuise, et à mi-chemin entre les palais de Compiègne et Villers-Cotterêts, la plus belle forteresse de Louis d'Orléans nous domine. Nous avons déjà évoqué à propos du château de La Ferté-Milon la personnalité flamboyante et complexe du duc Louis, frère du roi de France Charles VI dit le Fol, assassiné à l'âge de 32 ans en 1407. Parmi toutes les formes d'expression qu'il utilisa en tant que prince mécène, le duc Louis favorisa tout particulièrement l'entretien des châteaux dont il avait hérité et fit à Pierrefonds et plus encore à La Ferté-Milon œuvre de bâtisseur. Toujours est-il que dès le XIe siècle, une famille de Pierrefonds existe, issue de Quierzy. Elle est seigneur du lieu et c'est tout d'abord Nivelon Ier qui est mentionné dans les plus vieilles sources en 1072, puis Nivelon II et ses successeurs jusqu'à Dame Agathe de Pierrefonds. Veuve en 1180, c'est elle qui cédera progressivement ses droits et son château au roi de France Philippe Auguste, qui viendra y séjourner en 1194. La châtellenie reste royale jusqu'en 1353, alors qu'elle est rattachée à l'apanage de Philippe de France, duc d'Orléans et comte de Valois, fils de Philippe VI. À la mort de celui-ci en 1375, un inventaire mentionne le Chastel de Pierrefonds, grand et fort et bien hébergé. Du premier château, il reste bien peu d'indices, si ce n'est des déductions faisables à l'aide de la lecture des rares sources écrites. Il faut donc se figurer une cour seigneuriale, ou haute cour, trapézoïdale, flanquée de tours, et une basse cour accueillant un prieuré et son église dédiée à Saint-Même. Depuis toujours, plusieurs spécialistes ont appelé à une fouille archéologique pour renseigner la question de ce premier château. En 1396-1397, Louis d'Orléans lança un nouveau chantier de reconstruction à Pierrefonds, qui se poursuivit jusqu'à sa mort en 1407. Le château se présente désormais comme une grande enceinte subrectangulaire du type philippien, nous l'avons déjà dit, c'est-à-dire flanquée de tours circulaires ou semi-circulaires aux angles et au milieu de chaque face. Les dimensions des côtés en font un des plus grands quadrangles du Moyen-Âge, 100 mètres sur 97 mètres. À l'angle sud de cet élément, on trouvait l'élément dominant, à savoir le donjon, c'est-à-dire la partie principale, la résidence elle-même du duc, ensemble complexe de 3 à 4 volumes adossés. Ce donjon fut implanté sur les maçonneries réadaptées de l'ancien château. Partout ailleurs, on accueillait les bâtiments publics ou fonctionnels, distribués autour d'une cour intérieure. Viollet-le-Duc a globalement conservé cette dualité, même s'il a presque égalisé les volumes au XIXe siècle en rehaussant les toitures des bâtiments de la cour. Le donjon est formé de plusieurs ensembles qui sont en grande partie le fruit des reconstructions. Un logis trapèze à 3 niveaux, une tour carrée à contreforts diagonaux et à 5 niveaux, un bâtiment de latrine, un bâtiment technologique, des tours d'enceinte associées. Le rez-de-cour est un niveau de service et de cellier, alors que les deux étages suivants sont les étages nobles, accessible par un grand escalier en vis avec perron. On y découvre de belles fenêtres à croisées et à coussiège, et surtout deux monumentales cheminées de près de 4 mètres de large et rehaussées de décors. Le troisième étage du logis était ménagé sous comble, couvert de voûtes lambrissées. Les pignons du logis se terminaient par des redans, ces profils caractéristiques en escalier, surnommés parfois « pas de moineaux ». Il s'agit d'une tradition de construction typique du Soissonnais. À noter que le bâtiment des latrines, très technologique, nous l'avons dit, puisqu'il faut gérer habilement l'évacuation, a été lui également très bien reconstitué par Viollet-le-Duc. Son originalité provient du fait que les sièges ont été remplacés par des toilettes à la turque, ce qui peut surprendre dans un site destiné à l'empereur. Terminons avec le donjon, en précisant que les deux tours qui y sont associées au sud sont les plus grandes du château, et qu'on pense aujourd'hui qu'elles ont été les garde-robes ou les annexes des chambres du logis. Tout ce secteur princier du logis, ce donjon de plan massé, est en étroite relation avec une petite cour privée voisine, qui était vraisemblablement en fait un jardin, pourtant juste à côté de la fosse des latrines. Et avec la tour-chapelle voisine de la tour carrée, l'on passe toujours de l'une à l'autre par un couloir adroitement aménagé par Vuillet-le-Duc à la jonction des contreforts des deux tours. À l'origine, cependant, le dispositif était peut-être similaire, mais vraisemblablement une coursière de bois. Concernant l'enceinte maintenant, une autre des particularités de Pierrefonds est la silhouette de ses parties hautes. Deux chemins de ronde se superposent, le premier couvert en partie haute des courtines, les murs, et franchissant les tours, le second à la rase de ces mêmes courtines et en communication directe avec les chemins de ronde des tours. Elles-mêmes se doublent un étage plus haut par des terrasses. Il en ressort un profil à la fois simple par sa répétition et complexe par son imbrication, qui donne une bonne part du charme général du monument. Sans rentrer dans le détail ici, il s'agit d'une marqueur d'une profonde mutation à la fois esthétique et militaire des châteaux de la fin du Moyen-Âge, où l'on constate que progressivement, l'accent est mis sur les parties sommitales de l'édifice, tant pour la défense que pour la joliesse, aurait-on dit, du site. À y regarder de près, toutes les tours sont différentes, et les cinq tours de l'enceinte offrent quelques caractéristiques communes. La plupart, par exemple, présentent des cachots. Mais elles présentent beaucoup plus de divergences, à commencer par des hauteurs d'étages variables, voire même un nombre d'étages différents. La seule homogénéisation se fait au niveau des chemins de ronde. Ceci est certainement révélateur d'un chantier qui s'est déroulé par l'eau, ce qui nous rend très intéressant ce sujet. Quant aux salles, elles s'adossent le long des courtines. Les spécialistes s'accordent désormais à dire qu'elles n'ont peut-être jamais existé pleinement avant l'intervention du restaurateur impérial, ou qu'en tout cas, les indices de leur structure sont très discrets. En effet, toutes les vues et gravures anciennes confirment que la cour était bien vide jusqu'au milieu du XIXe siècle et que les deux niveaux de cave étaient largement béants, que des harpes de pierre indiquaient des maçonneries en attente. Et il ne faut pas oublier que l'assassinat du duc Louis stoppa les travaux et que la mine achèvera le site en 1617. Ces bâtiments dans la cour sont donc essentiellement l'œuvre de recréation de Eugène Viollet-le-Duc, qu'on découvre lorsque l'on se promène aujourd'hui dans les grandes salles ou que l'on emprunte l'improbable escalier à double révolution. Mais qu'importe, la magie opère, même si la science cède ici souvent le pas à ce que les historiens du XIXe siècle auraient appelé la couleur locale. Terminons ce petit survol avec la signature de Louis d'Orléans sur ce château, la sculpture monumentale. Nous l'avons déjà évoquée pour le château de La Ferté-Milon, en expliquant qu'il s'agissait d'un pendant au château de Pierrefonds. Lorsque vous découvrez le site, à son approche, vous êtes frappé par le caractère unique des grandes statues de chevaliers qui ornent une à une les tours de l'enceinte vers l'extérieur, ainsi que par le grand tableau sur la courtine voisine de l'entrée. Nous avions déjà évoqué ceci à La Ferté-Milon. Ce sont les preux qui sont représentés, ces chevaliers idéaux qui témoignent de la pensée chevaleresque de la fin du Moyen-Âge. En commençant par la tour ouest, celle qui voisine l'entrée principale sur votre gauche lorsque vous franchissez le pont-levis, on trouve successivement le roi Arthur, l'empereur grec Alexandre, le chevalier Godefroy de Bouillon, le chef juif Josué, mentionné dans la Bible bien sûr, le héros de Troie Hector, le chef de guerre Judas Maccabée, l'empereur Charlemagne et son lointain prédécesseur romain Jules César. Au nombre de 9, alors que le château ne présente que 8 tours, il manquait le roi des Juifs David, qui lui est représenté seul sur une courtine. Tel des gardiens, ils encadrent le château, mais aussi le magnifique tableau sculptural de l'Annonciation de la Vierge qui voisine l'entrée, comme une dédicace d'un prince de sang royal à la Dame des Cieux. En bref, l'ensemble résidentiel du logis est d'une extraordinaire créativité, marque d'un grand architecte. Il a fallu, en tenant compte des dispositions du château antérieur, adapter une vieille formule au désir d'un prince pour conjuguer agrément, ostentation et aspect militaire, ou, pour le dire autrement, défense, résidence et symbolique du pouvoir. Pierrefonds reste un site à redécouvrir en prenant le temps de le comprendre.